Voilà, et ces deux voix pour l'émission Le Yiddish aujourd'hui.
Oui, je suis là. Pardon, c'est moi qui l'ai.
Ah, c'est toi qui l'ai.
Vous voulez voir ce que c'est.
Bon, ben voilà, ça y est, nous sommes prêtes. Quand ouais. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors une nouveauté?
Une nouveauté absolument.
Achidesh.
Achidesh.
Oui.
Absolument.
Il faut toujours quelque chose de neuf. Hein. Il faut toujours nous étonner, nous ravir.
Oui, alors j'essaye de présenter les livres traduits du yiddish ou les livres qui portent sur des écrivains yiddish, mais je dois dire que j'ai du mal à suivre parce que l'édition, on peut dire, s'emballe. Donc il y a énormément de textes qui sont actuellement traduits. Bon, c'est vrai qu'en anglais, ça fait longtemps que ça a été fait pour beaucoup de choses, mais en français, là, en ce moment, ça s'accélère et il y a beaucoup de traductions. Donc là, je vais présenter un petit livre qui fait partie de la collection qu'édite la Maison de la Culture Yiddish. Donc, ce sont des textes courts, présentés en bilingue, dans un volume qui est très, très agréable, enfin, pas très grand, donc très agréable à porter, à emporter avec soi. Toujours joliment illustré. Il y a déjà toute une série, donc il y a du Sholom Aleichem, il y a Avrom Reisen, je pense que je les ai tous présentés. Et voici le petit dernier, donc ça c'est un livre qui s'appelle Faubourg, de Rochel Broches, traduit par Cécile Nesser-Hever, voilà. Donc c'est des livres en plus qui sont tout à fait accessibles, ils sont à 5 euros. Le seul problème, c'est qu'on ne les trouve que à la Maison de la Culture Yiddish. Et donc, bon, peut-être aussi, on peut les commander sur Internet. Hein. Oui. Mais voilà, ils ne sont pas du tout diffusés dans des librairies. Alors, voilà, donc ce livre, c'est Rochel Broches. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de Rochel Broches, ben, vous n'êtes pas les seuls. Puisque c'est effectivement une écrivaine qui est tout à fait inconnue, mais qui a été, ressortie, si je puis dire, par les yiddishisantes américaines, qui sont également féministes, hein, on peut dire, donc, qui sont citées par Cécile Nesser-Hever, c'est Ethel Reikus, Frida Forman et d'autres. Bon, je dois dire que je ne les connais pas. Je connais certains yiddishisants américains, mais pas elles. Je pense qu'elles ont fait des traductions en anglais. Elles ont peut-être écrit aussi des livres en anglais à ce sujet, mais moi, je ne lis pas l'anglais, donc je me contente des textes en français. Donc, je n'ai pas du tout connaissance de cette écrivaine. Alors, Rochel Broches, donc, dans l'introduction qu'a fait également Cécile, est née en 1880. Est morte dans le ghetto de Minsk en 1942. Et finalement, on peut dire qu'elle a été victime de la Shoah, bien sûr, elle-même, mais également son œuvre, puisque il devait paraître des œuvres complètes en 8 volumes, bon, ce qui me paraît quand même énorme, puisque apparemment elle aurait écrit 200 nouvelles, des contes pour enfants et des pièces de théâtre, mais enfin, ça ne fait quand même pas 8 volumes, mais bon. Ces œuvres complètes devaient paraître à Minsk, donc en 1940. Hein, voilà. Et donc, quand ça a commencé, ça s'est terminé très vite, puisqu'il y a eu évidemment l'invasion nazie. Hein. Donc, par contre, 2 anthologies de nouvelles étaient parues, donc « Asamlung der Zeilungen », nouvelles choisies, à Vilnius 1922, et « Spinnen, araignée », donc Minsk 1940, donc juste avant l'invasion nazie. Elle a beaucoup écrit, c'est une enfant prodige. Hein. À partir de 9 ans, elle commence déjà à écrire son journal. À 16 ans, elle écrit sa première nouvelle qui va paraître assez rapidement. Il y a aussi, à ce moment-là, dans la littérature yiddish, une grande curiosité, c'est-à-dire que les gens peuvent facilement éditer des nouvelles, éditer des textes, en général dans des journaux d'abord, puis il y a des éditions rassemblant un certain nombre de textes, et cela permet d'avoir accès à ces textes. Mais ensuite, elle a été finalement ignorée pendant fort longtemps. Cécile dit que c'est à la fois parce que, évidemment, son œuvre n'a pas été éditée, mais aussi parce qu'il y a une négligence vis-à-vis des œuvres des femmes. Hein. Les œuvres des hommes sont beaucoup plus connues, beaucoup plus éditées. Bon, c'est vrai que les grands écrivains yiddish, je suis en train de me dire, ont finalement eu la chance d'aller aux États-Unis et de survivre à la Shoah, ou même en restant en Europe de l'Est. Et donc, c'est souvent assez tard, effectivement, qu'ils ont été reconnus, mais ils ont eu le temps de vivre assez longtemps pour être reconnus, ce qui n'a pas été le cas de Rochel Brochess. Donc, Rochel Brochess, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais tout ça, on n'a pas beaucoup de détails. Cécile dit qu'il est important de faire connaître son œuvre. Voilà, donc avant peut-être d'aborder la nouvelle, qui est une nouvelle assez tragique, portant sur une femme amoureuse, mais ça se termine très mal, on va peut-être écouter déjà une musique.
Ben, une musique dramatique, comme l'histoire qu'elle raconte. Hein, j'ai pris ça chez le travail très intéressant que fait Eleonore Biesunski dans ce disque qui s'appelle « Yorush, héritage ». Elle va chercher des choses anciennes, archaïque, immédiatement douce à l'oreille. Il faut un petit peu tendre l'oreille pour déceler la mélodie et en déceler la beauté. Alors ça, c'est une histoire peut-être encore plus tragique que celle que raconte Rochel Brochess, dont voici la traduction. Le silence plane sur le cimetière. Pas un brin d'herbe ne frémit. Un doux sommeil berce la terre et notre amour, rien ne le trahit. Tu savais bien ce que tu voulais. Pourquoi avoir embrasé ainsi ma jeunesse? Enfant, j'aurais mieux fait de succomber avant qu'en toi me reconnaisse. De jour en jour, le feu s'attise quand je te vois au bras d'une autre. Je vais m'enfoncer un couteau dans le cœur pour que mes yeux ne voient pas ce malheur. Ne t'enfonce pas, ma tendre, de couteau dans le cœur, car vains sont tes pleurs. Il est trop tard, je suis déjà fiancée. Par bonheur, tu peux choisir qui tu veux à la bonne heure. Donc, il l'a lâché et en plus, il lui dit, tu as de la chance parce que tu es libre à nouveau, tu peux choisir qui tu veux. Donc, voici cette chanson. Ça sort de la collection Ruth Rubin qui a exhumé beaucoup de vieilles chansons issues de collectage.
Oy, still und ruhig, is affen bei Säulem, wo kein Gräsele dorten riecht sich nicht, wo kein Gräsele dorten riecht sich nicht, as is a schloss. Schläft ein der Mäulen und von unser Liebe weiß doch keiner nie. Du hast gewusst, was du kennst uns führen. Doch was hast du mir als jung im Kopf verdreht? Doch was hast du mir als jung im Kopf verdreht? O gleicher wollt ich ein Kind gestorben. Ey, der ich hab sich noch
Thank you.
talk to talk. Brennt der Feier Gräse, wenn ihr seht ich mit der zweite Stechen will ich sich mit dem Messer, als meine Augen sollen das nicht sehen.
Voilà, donc nous abordons cette nouvelle qui s'appelle, alors en yiddish elle s'appelle Unterberg, donc parue la première fois dans un journal yiddish qui s'appelle Der Freund, je crois, en octobre 1906 dans le journal Der Freund de Saint-Pétersbourg. Donc c'est quand même une nouvelle écrite par une toute jeune femme, elle a 26 ans à l'époque, et... C'est traduit, donc, comme je l'ai dit, par Cécile Nesser-Rever, pardon. Et donc, en yiddish, j'appelle Unterberg, ce qui veut dire, sous montagne. Donc, Cécile dit que c'est coteau. Mais en fait, elle a traduit par faubourg, parce que c'est dans une ville industrielle où les ouvriers habitent un peu à l'extérieur de la ville, donc sur une espèce de coteau. Mais elle dit que coteau a une connotation trop agricole en français et puis aussi poétique, et donc elle a traduit par faubourg. Voilà, donc je vais lire le début. Donc c'est un monologue d'une femme, on peut dire un monologue intérieur d'une femme. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment fait penser au texte de Virginia Woolf, qui a exactement les mêmes dates que Rochel Brochus. Voilà, né en 1882 et décédé par suicide en 1941 en Angleterre. Donc j'ai vraiment cette idée de monologue intérieur féminin, à mon avis. Et il y a une ressemblance, mais évidemment pas une... comment dire ?
Un pastiche ou une
influence, hein, bien sûr. Mmh. Elle ne le disait.
Elle ne peut pas l'avoir.
Elle ne peut pas l'avoir lu. Non, non. Alors, je vais vous lire un tout petit peu en français, en yiddish et après en français. Ihob im gesagt, Hitler hat doch gesagt, as on ihm kann ich nicht leben, as er geht weg von mir, is mir a finstere Nacht, an a rumgesparte Zwiese, a Dulhäus. Je le lui dis. Tous les jours, je lui dis que sans lui, je ne peux pas vivre, que quand il s'en va, c'est en moi une nuit noire, une prison hermétique, un asile d'aliénés. Chaque fois qu'il s'en va si résolu, je le supplie, je me mets en travers de la porte pour qu'il y ait pitié, pour qu'il ne parte pas là-bas vers ces gens où il se retrouve. C'est insoutenable, j'en perds la raison. D'ici à son retour, je me rongerai les sangs. Mais il ne m'entend pas. Dans ma supplique, il ne voit qu'un amour-propre débridé, un enfantillage. Il a honte, dit-il, honte de moi. Rien ne le rattache plus à moi. J'ai d'autres idées que les siennes. Nous voulons, nous attendons des choses différentes de la vie. Nous comprenons la vie différemment. Nous ne sommes plus liés que par le corps. Et pour lui, la liaison des corps est une chose abjecte. C'est ce qu'il dit. Et encore, encore des paroles de ce genre. Et il s'en va triomphant, sans même me regarder. Je cours à la porte, je cours à la fenêtre, je regarde loin dans la blancheur argentée du champ enneigé où sa silhouette sombre se noie dans la distance, dans l'incertain. Alors, ma maison m'apparaît vraiment comme un asile d'aliénés. Seule, j'y deviens folle. Après son départ, j'ai envie de tout déchirer, de tout casser, de pleurer, de hurler, de me cogner la tête contre les murs. Ma petite Riveleur regarde tout ça et elle rit. Elle croit que c'est un jeu. Il dit qu'il en a assez de moi, qu'il n'en peut plus de souffrir et qu'il ne veut plus. Cette souffrance est inutile, que je suis inadaptée à la société sauvage. Voilà, donc dès le début, on voit déjà une tension énorme entre cette femme, d'ailleurs qui n'a pas de nom. Ah si, si, elle s'appelle Hana et son mari. D'où vient cette tension? C'est que lui part, donc lui c'est un syndicaliste très engagé et qui va tout le temps à des réunions syndicales, et ce qu'elle ne supporte absolument pas, elle voudrait qu'il reste tout le temps avec elle. Il travaille bien sûr, il est machiniste, il a même un bon travail. Finalement c'est... Bon, pourquoi est-elle tellement malheureuse, hein? C'est vraiment la description d'un amour... très énorme, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être exagéré, possessif, ouais. Exactement. Et donc, elle, qui finalement est, comment dire, n'est pas du, ne, comment dire, ce désespoir n'a aucune base réelle, enfin si on peut dire, bien qu'on sait très bien que les maladies mentales n'ont pas besoin de base réelle. Et elle le reconnaît elle-même, hein, donc je vous lis ce qu'elle écrit à propos de sa situation. Notre maison est l'une des plus belles du faubourg. Alors, Cécile traduit notre maison, mais en fait, il dit c'est unser Dir. Dir, c'est un appartement, donc on ne sait pas s'ils ont une vraie maison. Bon. Trois petites pièces bien confortables. Les fenêtres de celle du milieu s'ouvrent sur le champ et sur le chemin qui mène à la ville. Celles de la chambre à coucher ont vu sur tout le flanc de la colline et ses maisons ouvrières par dizaines. Et puis sur les grandes, les hautes cheminées de l'usine. Dans la chambre à coucher, deux lits bien propérés et entre eux une petite table avec un réveil aux battements incessants et réguliers. J'y dors mal depuis un certain temps. Les longues, longues nuits s'éternisent. Pourtant, Riveleur est une enfant calme, en bonne santé, qui ne demande que peu d'attention. Sans compter que ma mère la prend chez elle pendant des semaines entières. Voilà donc une situation finalement assez positive. Hein. Comme elle dit, son mari gagne bien sa vie. Elle a une petite fille qui a 3 ans, qui est tout à fait charmante et qu'elle confie beaucoup à sa mère. D'ailleurs, on voit que dans ces situations de troubles psychologiques, finalement, le lien avec les enfants ne s'établit pas. Hein. C'est-à-dire qu'elle elle sait que sa petite fille est mignonne, mais elle s'en occupe extrêmement peu. Hein. Il fait encore noir, il reste encore un gros morceau de nuit épaisse et glaciale, mais on entend déjà la sirène, l'appel de l'usine. Yachet se lève. J'aurais dû me lever plus tôt encore pour préparer le thé, mais je ne peux tolérer l'idée que nous sommes fâchés. Le jour m'est de trop pénible, tout comme l'idée de le servir à table, ce taiseux, ou de lui préparer quoi que ce soit. Je reste couchée. Voilà, donc elle ne s'occupe en fait pas de son mari non plus, et lui supporte ça de plus en plus mal. Il rentre à midi, mais là, il ne mange pas. Bon, la situation est de plus en plus difficile. Et elle dit aussi que beaucoup de femmes accompagnent leur mari aux réunions syndicales, puisqu'elle peut laisser sa fille avec sa mère. Hein. Mais elle ne veut pas non plus faire ça. Hein. Donc, elle voudrait rester tout le temps avec son mari, tous les deux, et ne jamais voir qui que ce soit d'autre. Hein. Donc... lui, évidemment, ne supporte pas. Hein. Et donc, tout ça devient de plus en plus grave. Enfin, ça va de plus en plus mal.
Il lui dit des choses assez dures, quand même, dès le début. Il ne la supporte plus.
Oui, il ne la supporte déjà plus au début. Oui. On peut dire ça, oui. Il y a une évolution, quand même, mais Disons, au début, il y a cet amour comme ça, très, très, oui, possessif, comme tu as dit, mais qui reste quand même relativement logique. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça reste dans le domaine de la réalité, alors qu'après, ça devient de plus en plus psychotique, hein, on peut dire. Hein. C'est vraiment, elle s'enfonce dans une maladie. Hein. Alors, si je compte, là, nous sommes déjà à la fin, hein, je lis un petit peu les passages de la fin. Si je consentais à continuer de me débattre avec la vie, ne fût-ce que pour un moment encore, il me fallait occuper mes pensées avec toutes sortes de petites choses, toutes sortes d'enfantillages. Je pensais aux souris noires qui dansaient sous le plancher. Et pendant des heures entières, je pensais à une petite fille. C'était moi qui faisais toutes sortes d'acrobaties avec un cerceau qu'elle avait reçu d'une tante. Une petite fille joyeuse. J'avais été une petite fille joyeuse à qui on prédisait beaucoup de bonheur. Voilà, donc elle se rappelle le passé et aussi bon, cette façon de ne pas pouvoir se lever. Hein, ça fait aussi partie de la pathologie. Hein. Et donc, ensuite, ça va de plus en plus mal. Donc tout le monde a peur qu'elle se suicide. Donc, son mari reste encore avec elle tout le temps. Là, cette fois, il reste tout le temps. Mais elle a obtenu ce qu'il voulait. Mais en fait, ça va encore de plus en plus mal. Hein. La place de Yaché à l'usine avait été attribuée à un autre machiniste, un Allemand. Nous habitions encore notre appartement, mais nous aurions déjà dû le quitter. Yaché avait eu un bon salaire, mais il était altruiste et n'avait jamais pu mettre beaucoup d'argent de côté. Maintenant que la maison était à l'abandon et qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, tout craquait, tout allait à volo et le peu d'économie s'épuisait à toute vitesse. Yaché avait dans l'idée qu'au printemps nous partirions. Ouh ! Il n'y avait pas encore réfléchi. Je sentais en moi mon nouvel enfant, oui, parce qu'en plus elle est enceinte. Chacun de ses mouvements éveillait en moi des pensées déchirantes. Ce bébé lové sur mon sein était de trop pour tout le monde. On s'effrayait à l'idée de sa venue, et moi plus encore que tous les autres. À plusieurs reprises, je demandais des nouvelles de Rivelet, mais on me dit qu'elle avait chez ma mère une excellente nourrice et s'inquiétait peu de sa maman. Voilà, donc le temps passe, et puis à la fin, ça se termine vraiment par un épisode complètement affreux, quoi, c'est-à-dire qu'elle voit des démons. Et à la fin, il y a quelqu'un qui est assis en face d'elle. Alors, on ne sait pas, on ne comprend pas dans le texte si c'est réel ou pas. Et elle dit, c'est bien lui. C'est lui qui, ma vie entière, m'a privée de tout repos, qui a tronqué ma jeunesse, qui m'a plongée dans la folie. Je sais qui il est. Dès le moment où, tout enfant, je l'avais aperçu avec ses pas vigoureux et pesants et son manteau gris aux boutons étincelants, je n'avais pu trouver refuge pour lui échapper. Mon destin était entre ses mains. J'étais encore petite fille, mais j'avais immédiatement reconnu en lui mon ennemi le plus acharné. Et donc, elle prend un couteau et elle frappe cet homme. Alors, est-ce qu'on peut se demander aussi si c'est une allusion à une agression sexuelle, hein, voilà, d'être en face d'un homme qu'elle connaît et qui apparemment lui a fait quelque chose quand elle était enfant. Hein, on ne sait pas très clair. En tout cas, elle le frappe. Et il y a du sang qui coule, et puis des gens l'arrêtent et la frappent, et elle voit en même temps des démons, et je vous lis tout à fait la fin. « J'entends la voix de Yaché, elle aussi devenue sauvage, terrifiante. Ne la frappez pas, ne la frappez pas, ne vous avisez pas de la toucher. » Mais sa voix se noie dans le tumulte, les grondements féroces des démons l'engloutissent, et le sang coule à flots dans un bruyant gargouillé. Il n'y a plus devant mes yeux que du rouge, des teintes inondées, saturées de rouge. Voilà. Et ça se termine par un des points de suspension. Voilà. Alors, je voulais aussi faire une petite remarque, là, avant de terminer, sur la traduction. Alors, je trouve que Cécile traduit un peu trop haut, c'est-à-dire dans un français un peu trop élaboré, puisque la dernière phrase, c'est « Die Blut hat sich gegossen un reuschig gespritzt. Und ich hab nur gesehen für die Augen heute weit vergossene Kolieren. » Donc, je voyais devant mes yeux des couleurs rouges qui coulaient au loin. Hein, et elle, elle a écrit des teintes inondées, saturées de rouge. Alors, je trouve que ce saturé, on est vraiment là dans le vocabulaire de la peinture, hein, qui n'est à mon avis pas celui du texte. Hein, c'est... Bon, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs fois où je trouve qu'elle traduit comme ça de manière un peu trop élégante pour un texte qui est très simple, même si les sentiments exprimés ne le sont pas, mais la langue est très claire.
C'est pas un problème qu'on a souvent avec le yiddish. Quand je pense aux chansons, en yiddish ça va, et quand on essaye de traduire, c'est une platitude extrême.
Oui, alors elle dit que le langage est plat, et donc elle... qui a beaucoup de répétitions, et donc elle dit elle-même qu'elle a traduit en français en essayant de varier.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il faut garder, quoi, qu'il faut... bon, si c'est écrit simplement, il faut traduire simplement. Ici, quand même, bon, j'ai pas lu tout en yiddish, mais bon, ce qu'elle exprime est quand même assez complexe, hein, donc même si c'est avec des mots simples, je sais pas, bon...
C'est l'histoire d'une dépression, voire plus d'une psychose.
Oui.
C'est ça, elle a 26 ans, elle raconte ça.
Oui.
Elle a peut-être flirté elle-même avec des difficultés comme ça.
On ne sait pas du tout, oui, effectivement. En tout cas, c'est une description tout à fait
clinique,
intéressante.
Presque.
Oui, presque clinique, oui, de cette... oui, on passe de l'amour possessif à vraiment un épisode délirant. Et aussi où tout le monde est impuissant. Hein. Il y a des gens autour d'elle, il y a même des médecins, mais finalement, personne n'arrive à intervenir.
Oui.
Voilà, je crois qu'on a dépassé notre temps. Je suis désolée, on ne pourra pas écouter une deuxième musique.
Bon, alors c'est pour la prochaine fois.
À la semaine prochaine. Shalom
Aleichem. Merci Thomas.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Aïe, 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 aïe.